Bonjour, nous sommes le lundi 12 mars 2018, il est 14h et ça fait plus de 40 ans que Claude François est mort. Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Tous les 15 jours, La Relève, c'est une demi-heure avec les talents de demain. Pas de cinéma aujourd'hui, comme avec Antoine Reynard, qu'on félicite pour son César, du meilleur acteur dans un second rôle. Et on est très fiers pour lui de l'avoir reçu et de l'avoir invité à La Relève. Aujourd'hui, on va parler d'un organe que les animateurs radio ne possèdent pas toujours. Il s'agit du cerveau. Bonjour Gaëtan de la Villéon. Dites-moi, vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes aussi le fondateur de Cogix, une entreprise de conseil que vous dirigez. Et pour commencer, je vais vous demander à quoi vous jouiez quand vous étiez petit.
À quoi je jouais quand j'étais petit? Ouh là là, je dois me souvenir d'avoir joué à chat en tout cas.
Non, c'était pas qu'une blague. Parce qu'on imagine toujours l'enfance des ingénieurs qui ont démonté des réveils, des vélos. Alors je me demandais si vous aviez trépané vos petits amis.
Non, rien de tout ça. Je me souviens de m'être posé assez tôt des questions sur la nature et la biologie de façon générale. Mais rien de fantastique en tout cas.
Et le cerveau vous intéressait déjà? Vous vous demandiez comment ça marchait? C'était...
Alors, pas très jeune. Initialement, je me suis intéressé d'abord aux animaux et aux animaux marins.
Marins,
notamment aux requins, que je trouvais assez impressionnant. Et ensuite de ça, une fois en fac de biologie, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cerveau, qui avait comme point commun avec la biologie marine d'être un endroit assez inexploré.
C'est comme des abysses, finalement, un cerveau humain?
Un petit peu. On n'a exploré que 5% des fonds marins, alors que pourtant on habite sur cette planète. Et de la même manière, on s'est intéressé finalement assez tard au cerveau.
Et donc l'envie de travailler sur le cerveau, elle naît pendant ses études, grâce à un prof, comme beaucoup de gens.
Grâce à un prof, Nicolas Meunier, que j'avais en licence de biologie, et qui m'a donné ce goût des neurosciences.
Et donc, vous pouvez nous raconter, qu'est-ce qu'il avait de si passionnant?
Alors, je ne me souviens plus précisément, je ne me souviens pas d'un cours en particulier, mais je sais qu'au fur et à mesure, en fait, d'essayer d'ouvrir un peu cette boîte noire, de comprendre ce qu'il y a derrière les neurones, derrière chacun des mouvements, des perceptions, des sentiments qu'on peut avoir, je trouvais ça assez intéressant.
Normal, Jamy, ce n'est qu'une moitié de cerveau, l'hémisphère gauche, pour être précis. Et regarde, sur cette coupe, on distingue très bien en surface le cortex, la couche de matière grise qui contient les neurones, et à l'intérieur, la matière blanche qui, elle, est constituée des centaines de millions de fibres qui relient les neurones entre eux. Maintenant, si on veut observer un neurone, alors là, il faut utiliser un microscope. Et voilà le résultat, Jamy. Ça, c'est un neurone. On estime qu'il y en a environ 100 milliards comme celui-ci dans le cerveau humain. Alors on le distingue des autres cellules de notre corps grâce à sa forme très compliquée. Là, on voit bien le corps de la cellule, d'où partent des sortes de petits bras. Ce sont les fameuses fibres dont on retrouve les prolongements dans la matière blanche.
En fait, mis bout à bout, les neurones forment des routes sur lesquelles circulent des messages. Ces messages descendent le long de chaque neurone sous forme de petits courants électriques. Alors les informations arrivent dans les neurones par les petites fibres que nous a montrées Sabine, les dendrites. L'information est traitée par la cellule, puis elle repart en descendant le long d'une autre fibre, l'axone, qui finit par se diviser en plusieurs branches et chaque branche transmet l'information à un autre neurone. C'est ainsi que de neurone en neurone, les messages circulent à l'intérieur du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. En moyenne, chaque neurone est en liaison avec 10 000 autres neurones.
Alors c'est un extrait de C'est pas sorcier, l'émission de France 3, ça a une dizaine d'années, ça parle de cerveau. Vous l'avez regardé, notre réalisateur nous a confié qu'il avait été traumatisé par cette séquence, parce que dans la même émission, on les voit couper en deux un cerveau.
Alors je ne me souviens pas de l'avoir regardé, celle-ci en particulier, je sais que C'est pas sorcier m'avait pas mal marqué.
Mais est-ce que ce qu'il dit sur le cerveau est juste, ou est-ce que les découvertes depuis, enfin, est-ce que ce que vous avez entendu, là justement c'est juste, ou les découvertes sont telles que tout
non,
ça
non,
est
non, 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 ce qu'ils disent sont des bases biologiques qui ont été confirmées, notamment anatomiques.
Donc vous vous mettez à étudier le cerveau, j'avais envie de vous demander quand même pourquoi le cerveau plutôt qu'une autre partie du corps, la rate, l'intestin, le bras gauche?
Je pense parce que c'est lui qui régit nos comportements et du coup on l'utilise en permanence. Et à l'inverse de notre âme, de notre foie, on ne ressent pas forcément les usages du cerveau, ses fonctions, alors que justement le cerveau, on peut lorsqu'on est fatigué, on va commencer à ressentir qu'il y a un problème, qu'on n'arrive pas à agir comme de façon normale. Et donc l'idée était de faire ce lien entre un organe et un comportement qui, par définition, est un peu plus liquide et moins palpable.
Donc, on revient un peu en arrière, on est en licence, vous êtes en cours avec Nicolas Meunier, si j'ai bien retenu le nom, qui fait un cours sur le cerveau qui vous passionne. Après, vous faites, quelles sont les étapes pour devenir chercheur en neurosciences ?
Alors, les étapes, j'ai fait ensuite un master en neurosciences.
Ah oui, dès le master, vous êtes spécialisé ?
Oui, dès le master, j'ai commencé à me spécialiser, justement en neurosciences cognitives et comportementales. Il y avait soit une option très cellulaire, soit une option plus comportementale.
En cellulaire, c'est là où on coupe en deux, le cerveau,
c'est ça,
et on
cellulaire,
regarde.
C'est là où on va aller et moléculaire, on va aller regarder les gènes dans le cerveau, on va aller regarder les protéines, etc.
Le réalisateur tourne de l'œil.
et de l'autre côté, on va plutôt regarder des études qui sont faites, par exemple, en IRM.
Oui, c'est ça. Là, vous allez plus étudier le cerveau qui passe dans un IRM, les zones qui sont activées selon les comportements.
Voilà, là on va faire le lien entre l'anatomie, l'activité du cerveau et le comportement.
Donc là, on est en maîtrise, hein, on n'est pas encore à la fin.
Non, c'est pas fini encore. Alors après, il y a une dernière étape qui est peut-être la plus importante, mais qui ne correspond plus vraiment à des études, c'est le doctorat.
D'accord.
En réalité, en master, je fais un bref passage à Montréal. Je reviens à Paris pour faire ma thèse chez Karim Benchenan et Laurent Direg. Et Karim Benchenan va ensuite monter sa propre équipe à l'ESPCI où je vais le suivre. Tout ça, ça va durer 4 ans jusqu'à l'obtention d'un doctorat.
Alors, si je ne me trompe pas, votre thèse portait sur le travail du cerveau la nuit. Et moi, donc, j'ai découvert que le cerveau ne dormait pas la nuit.
Alors, le cerveau dort, mais pas au sens où on l'entend, puisque le sommeil est vu souvent comme une période d'inactivité totale. Puisque quand on regarde quelqu'un dormir, il ne se passe pas grand-chose. En réalité, le cerveau, lui, est particulièrement actif durant le sommeil.
Il fait quoi ?
Alors notamment, et là, c'est ce sur quoi je travaillais avec Karim Benchenan et Marie Lacroix, qui travaille et qui a cofondé CogX avec moi, il rejoue nos souvenirs. Il va consolider notre mémoire en répétant tous nos souvenirs, ou en tout cas les plus importants pendant le sommeil.
C'est comme quand on défragmente un disque dur, c'est un truc comme ça, il repasse tout et puis
C'est un peu ça.
Il écrase, il remet à des places.
En tout cas, pour quelque chose que tout le monde connaît, c'est comme quand on apprend nos tables de multiplication quand on est enfant. On va les répéter, répéter pour qu'elles soient ainsi consolidées. Et c'est en les répétant qu'il va comme ça consolider, stocker bien en profondeur les informations.
Radio Campus Paris est écouté par des étudiants qui ont sûrement des cours à réviser. Alors dites-nous, est-ce que c'est vrai qu'en écoutant ces cours enregistrés la nuit, on apprend tout seul sans rien faire ?
Alors, il y a différentes études qui vont dans un sens ou dans l'autre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'il est utile de les apprendre avant de se coucher. D'une part, parce que le cerveau consolide pendant le sommeil. Et en plus, il a été montré qu'il consolide particulièrement ce qui a été vu les dernières heures avant le coucher. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas mémoriser ce qui a été vu le matin.
Mais on ne dit pas que si on travaille avant de dormir, on dort moins bien ?
Si on est stressé avant de dormir, on dort moins bien.
Ah oui, donc on peut travailler tranquillement,
donc, traiter des informations.
Je peux préparer mes émissions donc le soir avant de m'endormir.
Si ce n'est pas une raison de stress pour vous, oui. Par contre, si c'est une réunion importante le lendemain avec une charge émotionnelle forte, quelque chose de négatif, là, ce n'est pas conseillé de le faire avant de dormir.
Et vous, précisément, vous travaillez sur quoi pendant votre thèse ?
Alors moi, précisément, je travaillais sur des neurones qui s'appellent des cellules de lieu. Tout est dans le nom, en fait, elles encodent l'information spatiale de l'endroit où on se trouve.
Donc là, vous êtes en train d'encoder le studio.
Là, j'ai un neurone A, par exemple, qui va s'activer. Si jamais je sors de la pièce, c'est un neurone B qui va s'activer, et ainsi de suite. Et en fait, lorsqu'on observe, moi je travaillais chez la souris, lorsqu'on observe l'animal faire des trajectoires, on va donc avoir une séquence d'activation des neurones A, B, C, D. Et si on observe l'activité de ces mêmes neurones durant le sommeil, on va voir qu'ils vont se répéter. Cette séquence, cette trajectoire va être faite, comme si l'animal rêvait des trajectoires qu'il a faites pendant l'éveil.
Vous voulez dire que pendant la nuit, on refait le parcours qu'on a fait le jour ?
C'est ça.
Ah, donc on travaille vraiment la nuit.
Oui, pendant la nuit, on travaille vraiment.
On refait des activités
quasiment à l'identique.
Et ce n'est pas comptabilisé sur le compteur de pas de mon téléphone, ça.
Ça, ils ne le voient pas. Effectivement, les capteurs voient beaucoup de choses, mais pas encore ça.
Alors, quand vous avez donc soutenu votre thèse, vous avez fait un postdoc, j'imagine ?
J'ai fait un postdoc assez rapide pour un postdoc, puisque je suis resté un peu moins d'un an dans le laboratoire.
Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là à quitter la recherche, finalement, pour créer une entreprise ?
Alors, ça a été un processus progressif. Ce n'est pas à la fin de ma thèse où je me suis dit tout d'un coup je plaque tout et je monte une entreprise. En fait, donc progressivement pendant ma thèse avec Marie Lacroix notamment, on a commencé à réfléchir ensemble à comment essayer d'appliquer ces connaissances, parce qu'on travaillait sur quelque chose de très fondamental, sur la compréhension des cellules de lieu durant le sommeil chez le rongeur, et on avait quand même cette envie de se dire que certaines recherches pourraient être applicables à l'homme. C'est un champ de connaissances très vaste qui est encore en progression et en fait relativement inexploité par rapport à la chimie, à la physique. Les neurosciences sont encore peu exploitées dans la société en général.
Il y a deux questions. La première, c'est que vous dites ce que vous avez vu sur le rongeur, c'est aussi vrai sur l'être humain. On fait la même chose, nous, la nuit.
On fait la même chose.
En fait, j'avais pas réalisé que je parlais de moi comme si j'étais une souris.
si, mais nous, on fait la même chose. C'est juste que les techniques qu'on utilisait au laboratoire ne peuvent pas être utilisées chez l'humain, notamment parce qu'on mettait des électrodes directement dans le cerveau de l'animal.
Alors, si on a des idées un peu préconçues, ce qui est mon cas, on se dit que la recherche est pure, on va faire de la science. Et puis là, vous avez travaillé pour des entreprises. Comment vous gérez ça? Vous avez fait le deuil de la science
Non, je pense que je ne le ferai jamais. Après, je pense qu'un pas est possible entre les deux. Il n'y a pas d'un côté le monde de la recherche et de l'autre côté le monde de l'entreprise. L'un serait bon, l'autre serait mauvais.
Vous essayez d'apporter ce qui est le meilleur de la recherche dans l'entreprise.
Voilà, on essaie d'apporter à la fois les connaissances. Donc là, ça veut dire qu'on va se nourrir de travaux qui ont été menés par des laboratoires scientifiques. Et on va aussi essayer d'amener la méthode expérimentale. Et donc là, c'est le fait de questionner, c'est le fait de mesurer, d'évaluer des actions qui sont menées. Puisqu'on en parle aujourd'hui dans les politiques publiques, par exemple, on n'a pas dans la société de façon générale une culture de l'expérimentation et de la mesure.
Quand vous dites qu'on en parle dans le débat public, c'est tout ce qu'on raconte autour aujourd'hui de l'apprentissage et qui servent d'appui pour
l'éducation. Le fait de se poser la question, lorsqu'on va modifier quelque chose, que ce soit dans l'éducation nationale ou ailleurs, de se poser la question quel est le réel impact, ce qui nécessite faire des mesures avant le changement et après.
Et d'avoir des vraies études sérieuses, parce que sur ce sujet-là, on y reviendra peut-être plus tard, mais il y a beaucoup d'études qui sont faites, qui disent, si vous dormez en mettant la tête de tel côté...
En fait, sur tous les sujets, on fonctionne très souvent à l'intuition. On va fonctionner parce qu'on a ressenti un effet ou parce qu'on l'a vu chez un de nos élèves ou chez un de nos collaborateurs. Mais en réalité, le fait de ressentir soi ou d'avoir quelqu'un qui ressent un effet ne montre pas cet effet. Il faut le faire avec des populations plus grandes. Il faut faire des tests statistiques. Enfin, voilà, il y a toute une méthode à mettre en place
scientifique
pour pouvoir dire effectivement cette méthode marche ou cette méthode ne marche pas.
Est-ce que dans votre décision, il y a aussi tout simplement le statut des chercheurs? On sait que c'est dur d'être chercheur aujourd'hui, que c'est pas toujours très bien payé. Est-ce que ça vous a aussi donné envie d'aller voir ailleurs?
Je pourrais pas nier le fait que ça a dû jouer, oui, certainement. Things will be better then. I'm not thinking when I'm trying to think. So let's go to sleep. I'll meet you up in the clouds. Go and climb into the top of a tree. So sit next to me. I'm never coming down. Though we're sitting with our laces undone, this ain't a big deal. We'll tie them back up again. Throwing magic up into outer space. There's plenty of space, there's plenty of room for this. And I'm not thinking when I'm trying to think. So let's go to sleep. I'll meet you up in the clouds. Take your fingers and pick up the balloon. Let's go to the hill and let it sit on the breeze. We're not waking up until we are done, but we're never done. So our eyes are staying close. I'm like a monkey with a million dreams to sit next to me. Cause I'm never coming down. I'm not thinking when I'm trying to think. So let's go to sleep. I'll meet you up in the clouds. La 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 la. 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 Going climbing to the top of the tree to sit next to me. Cause I'm never coming down. Though we're sitting with our laces undone, this ain't a big deal. We'll tie them back up again. Throwing magic up into outer space. There's plenty of space.
plenty of room for this, and I'm not thinking when I'm trying to think. Let's go to sleep. Let's go to sleep. Go to sleep, la 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 la. La 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 la. I'm going climbing to the top of a tree. You sit next to me, 'cause I'm never coming down.
C'était Clouds, interprété par Human, un extrait de l'album Three Times Lightning.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours, donc vous écoutez toujours La Relève, hein, on est cohérent, c'est toujours sur Radio Campus Paris. Notre invité s'appelle Gaëtan de la Villéon et il est docteur en neurosciences. Avant la pause musicale, vous nous expliquiez pourquoi vous avez décidé de travailler, enfin, vous avez commencé à nous expliquer pourquoi vous avez choisi de travailler pour des entreprises plutôt que de continuer la recherche. Alors j'aimerais vous demander à quoi peuvent servir les neurosciences dans la vie professionnelle.
Alors en fait, alors les neurosciences, les sciences cognitives plus largement.
Moi, je mélange les deux. Déjà, peut-être qu'on pourrait expliquer la différence entre les deux, si elle est claire.
Alors, les sciences cognitives sont un regroupement de disciplines dont les neurosciences font partie. Mais ce regroupement vise à étudier le fonctionnement de l'esprit humain. Donc, du coup, ça va aller des neurosciences jusqu'à la philosophie.
Y compris la psycho.
En passant par l'intelligence artificielle. C'est vraiment le regroupement pluridisciplinaire de tous ces fondamentaux et toutes ces recherches.
Et l'autre, donc, c'est une partie.
Et les neurosciences, c'est une partie. Aujourd'hui,
ça,
on parle plus de neurosciences.
De biologie.
C'est l'organe. C'est l'étude de
du fonctionnement
l'organe.
Du cerveau.
Voilà.
Donc, en quoi ça peut intéresser les entreprises? Comment fonctionne le cerveau?
Alors, notamment, ça peut intéresser en plein de choses, en réalité. Il y a plein de domaines de la vie des travailleurs qui sont touchés, puisque le cerveau, en fait, est devenu notre principal outil de travail. Là où le siècle dernier... ça vaut aussi pour les études. Là où le siècle dernier, on utilisait beaucoup nos muscles, puisque beaucoup de travaux étaient manuels, aujourd'hui, la quasi-totalité des tâches professionnelles consiste à capter, traiter et restituer de l'information. Ce qui vaut encore une fois aussi pour les étudiants. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est intéressant de commencer à regarder comment l'outil de travail fonctionne. De la même manière que pour améliorer une industrie, on va essayer d'améliorer les machines, bah là, il s'agit de s'intéresser au cerveau, même si l'objectif n'est pas d'améliorer le cerveau, juste d'améliorer les méthodes de travail.
Donc, plutôt d'améliorer les méthodes de travail pour tenir compte du fonctionnement du cerveau a un peu ignoré jusqu'à maintenant.
Exactement. L'objectif est pas d'être, notre objectif n'est pas d'être productiviste avec le cerveau, mais de créer des méthodes de travail qui vont permettre d'allier bien-être et efficacité.
On parle beaucoup de charge cognitive en ce moment, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez,
correspond en réalité, ça a été la clé d'entrée par laquelle on est passé pour fonder cette société. On travaillait avec un cabinet de conseil qui s'appelle Decide et qui nous a posé cette question. Qu'est-ce que c'est que la charge cognitive? On a l'impression qu'elle est plus importante aujourd'hui au travail. Pour donner une brève définition, l'objectif n'est pas de faire un cours, la charge cognitive c'est le coût de traitement pour notre cerveau. Lorsqu'on réalise une tâche.
On parle par exemple de la charge cognitive des femmes, notamment on a beaucoup parlé de ça, par rapport à toutes les choses auxquelles elles doivent penser, avoir en tête dans la journée ou de leur vie professionnelle, la gestion du foyer. Pour critiquer d'ailleurs cette charge cognitive, c'est ça. Donc,
c'est exactement ça.
Pour le coup, on utilise le bon terme.
On utilise le bon terme. Ça a été une BD qui a très bien vulgarisé cette théorie scientifique de la charge cognitive. Après, s'il devait y avoir un petit point de critique, puisque on aime bien, la charge cognitive concerne tout le monde, pas que les femmes. Donc voilà, là, ça avait un réel intérêt.
Elle
était appliquée et ça fait sens de dire qu'effectivement, conduire des tâches à domicile et non professionnelles, il y a quand même une charge cognitive. Mais de la même manière que dans une entreprise, un cadre dirigeant sera tout aussi impacté qu'un ouvrier en termes de charge cognitive.
Mais en quoi aujourd'hui, notre charge cognitive, elle est plus élevée? Parce que finalement, un ouvrier qui travaille avec sa main, avec ses muscles, travaille aussi avec son cerveau. On l'oublie souvent, mais il faut une force musculaire. Mais il faut aussi faire attention aux signaux qu'il y a autour, au travail des collègues. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est l'irruption des outils numériques, par exemple,
a
un effet?
Tout à fait, parce que c'est la quantité d'informations et la façon dont ces informations nous parviennent. Aujourd'hui, avec le digital, notre cerveau, du lever au coucher, est bombardé d'informations. Quasi en permanence. Et ça, notre cerveau, je dirais pas qu'il est pas en mesure de le traiter. En tout cas, l'évolution ne l'a pas amené à le faire de cette manière-là. Donc, faut pas dramatiser. Notre cerveau peut le faire.
Ça a été très vite en plus. Ça a été en moins de 10 ans. Quoi.
La question qui se pose,
c'est... Faut jamais oublier que les smartphones ont 10 ans.
Voilà, vu la vitesse à laquelle ça a été, et avec aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de big data, les deux font qu'il y a de plus en plus d'informations à traiter toute la journée. Et donc, on essaie de poser la question de comment le cerveau peut réagir à ça. On ne va pas couper le digital, on ne va pas enlever les smartphones. Donc, comment on peut essayer de mettre un peu en adéquation les deux ?
Par rapport à ça, donc, dans le monde du travail, peut-être que nos auditeurs ne travaillent pas tous, mais certains ont déjà dû travailler. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même tous complices. On est tous à vouloir faire 10 choses à la fois, à croire que grâce à... On parle de vie augmentée, de réalité augmentée. Enfin, vraiment, l'idée que le smartphone est une extension de soi qui permet de faire plus de choses. On ne prépare plus un voyage parce qu'on va voir, on va regarder sur la carte, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on n'est pas tous complices, finalement ?
Alors, dire complice, ça voudrait dire qu'il y aurait un ou plusieurs responsables. Je ne sais
pas
si...
Vous croyez plus à... Pardon.
Oui, je ne sais pas si la meilleure
phénomène
approche
est... systémique, voilà, quoi, le système ça. Qui se met en place.
Sont... Ça se met en place de façon douce et parfois un peu insidieuse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même, en tout cas, un rôle à jouer dans ces phénomènes-là. Aujourd'hui, il y a maintenant un droit à la déconnexion en France. Je ne pense pas que ce soit à la loi de donner des heures auxquelles on doit se connecter ou se déconnecter. On voit bien que les gens... même s'ils en ont l'autorisation, même s'ils essayent, ils ont du mal à se déconnecter. Il y a une forme d'addiction aujourd'hui à la sollicitation, à utiliser Instagram, à utiliser les réseaux sociaux, professionnels ou non. Et donc là, c'est aussi à nous de travailler sur ces sujets-là.
Et vous pensez qu'il faut, donc, faut malgré tout inventer de nouvelles règles d'utilisation ou il faut apprendre à chacun à mieux utiliser ces outils ?
Je pense qu'il faut une approche globale, il faut les deux. Il faut sensibiliser les gens sur la façon dont leur cerveau fonctionne, les alerter sur le fait que ce n'est pas anodin, mais aussi dans notre rapport au monde, ce n'est pas anodin de toujours se mettre en scène, par exemple. Ça modifie aussi les façons dont notre cerveau traite les informations. Et il faut également repenser les outils. Il faut également que les applications ne soient pas en permanence à nous solliciter, par exemple.
On a des auditeurs étudiants, quand ça fait 3 ou 10 fois que je le dis. Est-ce qu'il y a un conseil ou 2 conseils que vous pourriez leur donner comme ça ? Je n'ai pas demandé avant. Donc, la façon improvisée, est-ce que vous avez méthodes que vous utilisiez quand vous étiez étudiant il n'y a pas si longtemps ?
Alors, je ne les utilisais pas forcément quand j'étais étudiant. Maintenant, par contre, j'essaie de me les appliquer. Très souvent, c'est du bon sens en fait. Mais déjà, de questionner l'usage du digital et donc de s'allouer des plages faites pour la concentration, des plages faites pour la collaboration, ou en tout cas l'échange.
Donc genre, on ne révise pas un examen sur Snapchat, quoi.
Oui, ou en tout cas, il ne suffit pas, par exemple, si quelqu'un essaie de mettre son téléphone en silencieux, ça ne suffit pas, puisque notre cerveau va traiter l'information de l'écran qui s'allume. Donc à ce moment-là, on le met en mode avion ou on le met face cachée, de sorte à ce qu'on ne reçoive aucune sollicitation. C'est arrivé tout à l'heure pendant l'émission, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis derrière. Puisque le simple fait que mon téléphone...
Déjà, vous auriez dû le couper.
Déjà, j'aurais dû le couper avant d'arriver. Je suis arrivé avec un peu de retard.
C'est la chance, on a un réalisateur qui est cool aujourd'hui. Pardon.
Donc voilà, la première des choses, c'est d'allouer des tâches, même des temps, même s'ils sont courts, de prendre 15 minutes s'il faut se concentrer sur un sujet et de ne pas avoir de digital à proximité.
Mais un consultant en neuromarketing nous ouvre les portes de ses formations. Ce Français s'est installé sur la côte ouest américaine, où il a créé sa société, SalesBrain. Comprendre, vendre au cerveau. Ses clients, ce jour-là, des entrepreneurs de l'Oregon. Certains sont des restaurateurs, d'autres vendent du matériel agricole ou même des lave-linges.
Good morning. What if you...
Et si je vous disais qu'il y a dans le cerveau des consommateurs un bouton d'achat ? Et si je vous apprenais comment pousser ce bouton d'achat ? Et si cela ne prenait que 2 heures de votre temps ce matin ?
Patrick Renvoisé ne propose pas d'études en IRM. Sa société a créé une méthode qui adapte les connaissances en neurosciences aux techniques de vente.
Devinez quoi ? La partie de notre cerveau qui réfléchit influence notre décision, mais ce n'est pas elle qui la déclenche. Ce n'est pas le boss. La partie du cerveau qui déclenche notre décision s'appelle le cerveau reptilien. Elle se trouve ici, entre les 2 hémisphères. Vous comprenez ? On décide au même niveau qu'un crocodile, qu'un reptile.
C'est un extrait d'un numéro de Cache Investigation, l'émission de France 2, qui était consacré au neuromarketing. Moi, j'ai choisi cet extrait parce que ce qui me fascine dans ce genre d'extrait, c'est que les gens qui critiquent les technologies et leur pouvoir prennent un extrait où, à mon avis, le gars, il survend un tout petit peu sa techno. Alors, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus.
Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mot neuroscience, c'est...
Genre, il a le bouton pour acheter, quoi. Ça, voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial.
Ce qui est marrant, c'est que de plus en plus, on utilise les neurosciences pour faire passer des messages, ici commerciaux, et dire que les neurosciences montrent où est ce bouton. En réalité, le marketing existait bien avant. C'est sûr, il permet d'affiner et c'est parfois dangereux. Mais aujourd'hui, on est un peu dans la mode du neuro-tout, de la neuromania, et il faut faire un petit peu attention à ça.
Ouais, moi, pour préparer l'émission, j'ai donc traîné sur un réseau social spécialisé dans les vidéos. Alors, on trouve, quand on tape le mot cerveau, je me suis vraiment amusé à prendre les titres. Comment reprogrammer le cerveau en 18 minutes, les super pouvoirs du cerveau, comment devenir un génie, celle-là je l'ai regardée, ça n'a rien fait encore, j'attends, libérer votre cerveau ou encore 10 faits sur le cerveau qui prouvent que rien n'est impossible. Et mon préféré, nettoyer votre cerveau en musique, j'avoue j'ai pas osé cliquer, mais ça m'a fait peur, qu'est-ce qui va m'arriver après. Tout ça c'est bullshit, comme dirait Laurent Wauquiez.
En tout cas ces titres, oui.
Les titres, oui. Comment réagirez-vous vous demain si une entreprise venait vous voir pour savoir comment utiliser les neurosciences pour, je sais pas, manipuler ses salariés? Pour les faire travailler plus sans qu'ils le sachent ou...
Bah, comme je le disais, on refuse d'avoir une approche productiviste et ça a été...
Donc vous êtes plutôt dans une approche bien-être au travail?
Oui, alors, après c'est un peu angélique le terme de bien-être au travail, mais pour nous c'est allier les deux. Mais les neurosciences ne doivent pas être utilisées pour aller à l'encontre du libre-arbitre des gens, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans nos statuts. On s'interdit par exemple de faire du neuromarketing et d'aller aider des publicitaires à faire en sorte que le message passe mieux, même si les gens ne veulent pas de ce produit.
Le risque de manipulation par les neurosciences, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous qui savez ce que c'est, ou on le surestime?
Je pense qu'on le surestime un peu. Après, il fait vendre et je trouve ça dommage, notamment parce que ça fait perdre en crédibilité, notamment la recherche, les vrais chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Après, il y a quand même des questions à se poser. Il y a de plus en plus de... L'approche technologique augmente. On est capable de faire de plus en plus de choses. Certains disent qu'on implantera des puces cérébrales, des puces dans le cerveau des individus.
C'est... On en est loin, ça, non ?
On en est très, très loin et je ne sais pas si ce sera même possible un jour, mais... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser les questions, en tout cas.
Par rapport à dans l'histoire des sciences, on en est où là? On sait à peu près, vous disiez tout à l'heure, 5%, c'est ça? On sait quoi? Alors, même non, on ne sait pas, en fait.
On ne pourrait pas donner un pourcentage.
Mais en tout cas, c'est une science qui débute.
C'est une science qui débute. C'est une science qui a...
Qui tâtonne encore.
On va dire une cinquantaine d'années sur les plus grosses avancées.
C'est l'IRM, c'est l'imagerie médicale.
C'est l'IRM qui a bouleversé.
C'est que là, on peut voir quelle partie bouge. Et donc,
voilà, avec l'IRM, on pouvait commencer à avoir des zones cérébrales s'activer. Maintenant, on est capable de mettre des électrodes et d'enregistrer des populations entières de neurones. Mais c'est uniquement le cas chez des patients, notamment chez des patients épileptiques par exemple. On est obligé de les opérer, on en profite pour mettre des électrodes et analyser l'activité de neurones. Donc on va de plus en plus loin et dans le plus en plus petit dans le cerveau.
Quelle serait la prochaine découverte là, à court terme, à moyen terme, importante qui pourrait changer? On a une idée de ce sur quoi aujourd'hui les chercheurs cherchent, c'est pas facile à dire. Et le jour où ils trouveront, là on sait qu'on va franchir un saut, on sait dans quelle direction c'est?
Tout ce qui concerne les interfaces cerveau-machine. C'est pour moi la technologie la plus forte qui risque d'arriver à un moment. C'est-à-dire comment on arrive à coupler un ordinateur à un cerveau. On le fait de manière non-invasive, donc par exemple avec des électrodes qu'on va mettre sur le crâne. Ça réduit énormément les informations qu'on peut tirer du cerveau. Le moment où la technologie permettra d'aller dans le crâne, là ça deviendra beaucoup plus puissant.
Merci beaucoup Gaëtan de la Villéon, c'est déjà fini, je suis pas sûr. Mon cerveau va très bien, merci beaucoup. Il n'y avait pas eu de charge mentale insupportable. Vous venez d'écouter La Relève saison 2 épisode 10, c'était préparé et présenté par Christophe, réalisé par Antonin qui n'a plus peur, ça y est, il a oublié ses pas sorciers, il a oublié le cerveau coupé en deux. Nous on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus et je pense que votre cerveau commence à le savoir. Ce soir à 19h sur Radio Campus, c'est la matinale. Bonne quinzaine à tous, merci.
Suddenly happened.